Accent d'Europe, Juliette Gerbrand, Anne Cantner.
Bienvenue à toutes et à tous. Face aux difficultés de l'hôpital public, l'accès aux soins devient difficile dans plusieurs pays d'Europe. En France, une commission d'enquête parlementaire va se pencher sur le sujet. L'Italie n'est pas épargnée. Parmi les habitants aux revenus modestes, près d'un sur deux renonce à se soigner, faute d'obtenir un rendez-vous. Il y a jusqu'à un an d'attente pour une chirurgie cardiaque, 2 ans pour une mammographie, des chiffres qui en disent long. On retrouve Cécile Debarge. Comment s'explique un taux de renoncement aussi élevé ?
La première raison, c'est que les listes d'attente pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste dans les hôpitaux publics italiens sont très, très longues. Ce n'est pas un mystère, c'est un problème qui existe depuis longtemps et petit à petit, ça a créé un système de santé à deux vitesses. D'un côté, ceux qui ont les moyens de se tourner vers le secteur privé où le rendez-vous sera payant, mais en général assez rapide. Et puis il y a les autres, ceux qui ne peuvent pas payer la centaine d'euros que coûtent ces rendez-vous. Et ce que nous apprend le rapport de l'Association italienne des hôpitaux privés qui vient de sortir, c'est que 40% des Italiens les moins favorisés, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 15 000 euros par an, se découragent et finissent tout simplement par renoncer aux soins.
Est-ce que le problème concerne l'ensemble de l'Italie ?
C'est une réalité nationale, mais elle est encore plus ancrée dans le sud du pays. 35% des personnes interrogées par un récent sondage Censis ne sont pas satisfaits de la qualité des soins dans les hôpitaux du sud, contre à peine 10% dans le nord du pays. Évidemment, ils dénoncent les temps d'attente infinis, et l'une des conséquences de ce déséquilibre, c'est un tourisme médical. Il n'est pas rare du tout en Italie que des habitants se déplacent dans une autre région pour se faire soigner. C'est le cas de 16% des patients italiens qui en ont eu besoin au cours des 12 derniers mois. La moitié d'entre eux se sont directement adressés au secteur privé pour leurs soins de santé sans même passer par la case hôpital public. Alors ces chiffres ont fait réagir le ministre de la Santé, Orazio Schillaci. Il a annoncé un plan ad hoc pour réduire drastiquement les listes d'attente. La chef du gouvernement, Giorgia Meloni, en a fait une priorité de son gouvernement. Elle a annoncé mercredi que près de 3 milliards d'euros supplémentaires avaient été mis sur la table pour améliorer le système de santé italien.
Cécile Debarge, correspondante en Italie.
La Commission européenne va poursuivre l'Irlande en justice pour son incapacité à protéger les tourbières. Les tourbières, ce sont ces zones naturelles qui sont de précieux pièges à carbone lorsqu'elles sont bien conservées. Or, d'après Bruxelles, Dublin n'applique pas la loi européenne. Clémence Pénard.
Sur les terres irlandaises, d'immenses étendues de zones brunes et humides entre marais et landes. C'est ce qu'on appelle les tourbières, dont l'écosystème permet la décomposition de matières organiques. Et cette décomposition produit alors de la tourbe, un moyen de chauffage traditionnel pour les Irlandais. Havre de biodiversité, les tourbières intactes sont de véritables puits de carbone. C'est pourquoi elles ont été classées comme habitats prioritaires en vertu de la directive européenne sur les habitats. Ce qui impose aux États de les protéger contre toute activité dommageable. Or, d'après la Commission, les tourbières continuent d'être dégradées par les activités de drainage en Irlande. Et lorsqu'elles sont endommagées, les tourbières deviennent une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. Un rapport de l'ONU estime qu'elles émettent plus de 20 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. La Commission reconnaît que des mesures pour les restaurer ont bien été prises, mais elle estime que l'Irlande n'a pas adopté les lois nécessaires pour réellement les protéger comme la directive le lui impose. Les ONG environnementales ont salué la décision de la Commission de traduire l'Irlande devant la Cour de justice de l'Union européenne. Pour elles, l'État n'agit tout simplement pas assez vite sur cet enjeu.
La Roumanie n'aura pas à débourser les 6 milliards de dollars réclamés par une entreprise canadienne qui a dû renoncer à exploiter l'or du site Roșia Montana. Un tribunal international a récemment mis fin à un conflit qui durait depuis 25 ans, Juliette.
Et pour la société civile roumaine, Anne, qui s'était très largement mobilisée contre ce projet, c'est une victoire et un immense soulagement. On écoute le reportage de notre correspondant Benjamin Ribou.
Dans l'une des boutiques de Rocha Montana, une poignée d'habitants sont rassemblés devant la petite télé de Gabriela. Émus, ils voient leur adjoint au maire répondre aux journalistes sur la décision du tribunal. Gabriela, propriétaire du magasin, fait partie de ceux qui n'ont jamais voulu quitter Rocha Montana.
Je suis heureuse comme jamais. J'attends ce jour depuis 25 ans. J'ai toujours su qu'on allait gagner et que justice serait faite, même si en général ces multinationales usent de corruption pour parvenir à leur fin. On est chez nous, on a nos maisons et on a des droits. Ces montagnes sont habitées et un tel projet avec un immense bassin à résidus et l'utilisation de tonnes de cyanure n'avait pas sa place ici. Sans compter qu'ils ont débarqué comme des cow-boys en disant « on va tout acheter, maintenant vous pouvez partir ».
Même son de cloche chez l'époux de Gabriela, Sorin Jorka, a été entendu comme témoin en qualité de représentant des habitants de Rocha Montana dans le cadre de l'arbitrage international.
Quand cette compagnie est arrivée en 1996, elle a commencé par vendre du rêve aux habitants. Puis elle a payé des gens pour faire pression. Il y a même eu jusqu'à 500 employés ici, une véritable armée chargée d'intimider les opposants au projet. La compagnie minière a aussi acheté 850 propriétés de Rocha. Il disait aux familles, vous feriez mieux de partir ailleurs. De toute façon, ce ne sera plus vivable avec l'exploitation. Et ils ont pu compter sur le soutien des autorités locales et du gouvernement. Un soutien à un projet illégal.
C'est la démesure et l'impact environnemental du projet minier qui a effrayé les habitants. Les Canadiens voulaient créer un site minier de 24 km², rasant au passage 4 massifs. Alors que le site abrite les vestiges de 150 km de galeries minières datant de l'époque romaine, Alburnus Major, le nom romain de la colline, est d'ailleurs celui d'une association d'habitants. On retrouve sur les hauteurs de Rocha l'un de ses fondateurs, Zeno Corna.
On a un site archéologique unique au monde. L'industrie minière n'a plus sa place ici. C'est l'industrie qui produit le plus de désastres écologiques au monde. Ils voulaient utiliser 240 000 tonnes de cyanure. Vous imaginez l'impact pour la région ? Victoire, on a gagné.
Victoria.
La détermination des habitants de la commune n'aurait sans doute pas suffi sans l'appui massif de la société civile roumaine. En 2013, des manifestations monstres dans tout le pays poussent l'exécutif, qui soutenait jusque-là les Canadiens, à retirer un projet de loi visant à exproprier les habitants de Rocha. La commune est plus tard déclarée d'intérêt historique avant d'être classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021. Désormais, Rocha parie sur l'avenir. Kadarié a débarqué ici en tant qu'opposant au projet et il y est resté. Il va même ouvrir un bistrot en centre-ville dont il nous ouvre les portes. En fond sonore, la chanson militante « Rocha Montana ne va pas disparaître ».
Cette victoire, c'est aussi celle de tous ces gens qu'on entend là. Ils ont organisé un festival chaque année pour faire connaître ce projet désastreux. Certains ont consacré toute leur jeunesse à cette cause juste et honnête. Voilà pourquoi Rocha Montana est devenu un lieu si important. Les gens l'aiment et sont convaincus qu'un avenir sans exploitation minière ni cyanure est possible.
Tika compare l'histoire de Rocha Montana à la victoire de David contre Goliath. Il s'attend désormais à un nouveau départ pour la commune, d'autant qu'il compte lui-même y devenir maire dès cette année avec déjà une idée de campagne, aider les habitants à récupérer les maisons achetées par la compagnie canadienne.
À l'occasion des fêtes de Pâques, ce week-end en France, comme dans plusieurs pays européens, petits et grands vont chercher des chocolats cachés dans le jardin ou à la maison. Une tradition qui pourrait coûter cher cette année. Le cours du cacao atteint des records, on en parlait sur RFI ce matin. Et cette flambée des prix affecte particulièrement l'Allemagne, deuxième importateur de fèves et premier exportateur mondial de chocolat. À Berlin, Julien Méchaussy.
Près de 10 000 euros la tonne. Depuis quelques jours, le cacao est devenu la matière première dont les prix ont le plus augmenté sur les 12 derniers mois. Ils ont même doublé depuis le début de l'année. À la bourse de New York, la tonne de cacao est désormais plus chère que la tonne de cuivre. Les géants allemands du secteur se mettent à trembler. Alors qu'elle produit chaque jour 400 tonnes de chocolat, l'entreprise Rittersport parle même d'un approvisionnement qui n'est plus assuré tant le marché est asséché. Du jamais vu. Les explications de cette crise sont à aller chercher du côté des deux principaux producteurs de fèves, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui représentent à eux seuls les deux tiers des récoltes mondiales. Les conséquences du changement climatique ont favorisé l'apparition de maladies sur les délicats cacaoyers, dont beaucoup ont dû être abattus. L'explosion des prix qui a suivi ne profite pourtant pas aux petits producteurs. Les fèves exportées actuellement par voie maritime ont été vendues il y a un an sur le marché à terme, à un cours du cacao bien plus bas. Et si les grandes entreprises allemandes s'alarment, de nombreuses organisations de protection de l'environnement, à l'image du WWF, appellent les consommateurs à changer leurs habitudes pour soutenir ces petits producteurs en choisissant d'acheter du chocolat labellisé durable. Une offre déjà très présente dans les supermarchés du pays où l'on trouve de nombreuses marques de plus petites manufactures. Ces entreprises s'approvisionnent directement auprès des cultivateurs, ce qui leur garantit un revenu juste sans faire le jeu des spéculateurs.
Accent d'Europe en Turquie, à deux jours des élections municipales. L'enjeu, dimanche, pour le président Erdogan, sera de tenter de reprendre Istanbul et Ankara, les principales villes du pays que son parti avait perdu il y a 5 ans.
À Istanbul, le président compte pour cela sur les divisions de ses adversaires. Mais le maire sortant, Ekrem İmamoğlu, n'a pas dit son dernier mot. C'est un reportage à Istanbul, donc Dan Andlauer.
Sous les minarets de la grande mosquée de Maltepe, un arrondissement de la rive asiatique d'Istanbul, Coşku Nesser agite un drapeau de l'AKP, une ampoule sur un fond orange. Le ciel est gris, il pleut, mais Coşku porte bien son prénom qui veut dire « enthousiaste ». Tout sourire, cet homme de 45 ans attend Murat Kurum, candidat du pouvoir pour la mairie de la mégapole turque.
On connaît tous les performances de l'AKP en matière de gestion municipale depuis 30 ans. Par comparaison, ces 5 dernières années, la mairie d'opposition n'a rien fait, à part mentir aux citoyens. Comme le dit notre reis, Recep Tayyip Erdogan, Istanbul est notre grand amour. On va gagner et ce sera une bonne nouvelle pour Istanbul et pour tout le pays.
Gül Şahan, une sexagénaire au brushing et au maquillage impeccable, n'en pense pas moins.
Le maire actuel va à la retraite, merci, mais ça suffit. Comme le dit notre président, nous allons enfin retrouver notre belle Istanbul. Istanbul est un trésor mondial, mais c'est avant tout un trésor pour nous qui y vivons. Il est donc très important de gagner. On se mobilise, mais c'est Allah qui décidera.
Chez les partisans du pouvoir, le message semble passer. Les 5 dernières années n'auraient été qu'un accident de parcours, une parenthèse malheureuse pour Istanbul. Dimanche, le candidat Murat Kurum, en réalité le président Recep Tayyip Erdogan, va reconquérir la ville que son parti avait dirigée pendant 25 ans, jusqu'à ce que l'opposition s'en empare aux élections de 2019. Pour le chef de l'État, il y a des enjeux politiques et symboliques. Réparer l'humiliation, conforter sa victoire aux élections nationales de l'an dernier, récupérer la ville où il est né, dont il a été maire, qu'il a propulsé au pouvoir il y a 21 ans, la vraie capitale turque aux yeux des tenants de l'islam politique, l'ancienne capitale ottomane, celle où brille Sainte-Sophie redevenue mosquée. Mais les enjeux sont aussi économiques, souligne le journaliste indépendant Barad Özgür.
Avec sa population, 16 millions d'habitants, Istanbul est une ville gigantesque, de la taille d'un pays. Environ 40% des impôts de la Turquie y sont collectés. Toutes les grandes entreprises y sont installées. Istanbul est une énorme concentration de capitaux. Il faut ajouter l'économie informelle qui, à Istanbul, représente au moins autant que l'économie légale. Donc pour le pouvoir, Istanbul est une machine formidable. Une machine qui vous permet d'alimenter financièrement en permanence des réseaux clientélistes et de mobilisation. Par ailleurs, la municipalité d'Istanbul est comme une grande agence pour l'emploi, puisqu'elle fait travailler environ 50 000 personnes et fait vivre leurs familles. Perdre tout ça pour le parti au pouvoir, ça a été un très gros coup dur. Le budget de la métropole est passé entre d'autres mains.
« Du côté des partisans du maire sortant d'opposition, on attend le vote de dimanche avec une impatience fébrile. Il y a 5 ans, Éclaim Mamoudou, jusqu'alors quasi inconnu, avait été élu grâce à une alliance large de partis d'opposition. Cette alliance a volé en éclats après la défaite à la présidentielle de l'an dernier. Pour ce scrutin municipal, Éclaim Mamoudou n'est soutenu que par son parti, le CHP, premier parti d'opposition. Ajout, 38 ans, veut croire que cela suffira, qu'un nombre suffisant d'électeurs des autres partis choisiront de voter pour lui comme elle.
Quand il a été élu, Ekrem Imamoglu n'avait rien à faire valoir. Là, c'est différent. En 5 ans, il a eu le temps de faire ses preuves et de devenir une référence. Sa force lui vient désormais de lui-même et non plus de son parti. Pour toute l'opposition, il incarne un espoir, peut-être notre dernier espoir. Pour être honnête, je ne suis pas une électrice du CHP, mais je soutiens Ekrem Imamoglu.
Selon le politologue Kemal Can, les enjeux du scrutin sont plus grands pour l'opposition que pour le président Erdogan, en particulier à Istanbul.
Erdogan a déjà perdu une fois à Istanbul en 2019 et ça n'a pas été la fin du monde. Il n'a pas perdu le pouvoir, il a même de nouveau remporté les élections nationales l'an dernier. Donc une défaite serait une très mauvaise nouvelle, mais une mauvaise nouvelle qu'il pourrait tolérer. Ce serait comme perdre une bataille tout en ayant gagné la guerre. En revanche, pour l'opposition qui enchaîne les scrutins en se disant « cette fois-ci ce sera la bonne », un nouvel échec provoquerait une chute d'espoir et de mobilisation. Cela prolongerait aussi les partis d'opposition dans de graves crises internes. Certains partis pourraient disparaître, certains entreraient dans une période très troublée. Une défaite à Istanbul serait donc beaucoup plus destructrice pour l'opposition que pour le pouvoir.
À l'inverse, en cas de nouvelle victoire, Ekrem Imamoglu assoirait son statut de présidentiable pour les élections de 2028. Des élections auxquelles Recep Tayyip Erdogan n'est pas censé participer, mais personne en Turquie ne semble croire que cette campagne municipale sera, comme le président le prétend, sa toute dernière campagne.
Et on retrouve la chronique musicale de Vincent Teval comme chaque semaine. Aujourd'hui, direction le Portugal.
Ana Lua Caiano, retenez bien ce nom car c'est sans nul doute l'une des révélations de cette année avec un premier album qui vient de paraître où cette autrice, compositrice Lise Boete de 24 ans associe musique traditionnelle portugaise et sonorité électronique ultra moderne. Ana Lua Caiano a étudié la musique classique, le jazz et le chant, mais sa passion pour les traditions folkloriques vocales de son pays prend sa source dans les cassettes que ses parents écoutaient à la maison quand elle était enfant. Elle s'est depuis intéressée de près au collectage ethnographique de traditions musicales souvent transmises oralement, qui jouent sur les polyphonies vocales et des percussions comme le bombo, un grand tambour, l'adoufé, un tambourin de forme carrée ou encore les castagnettes portugaises, autant de sonorités et d'influences directement importées dans des chansons redoutablement affûtées.
Cansada, ai de sempre ver o mesmo quarto, o mesmo estrado e o mesmo lado desta rua. Cansada, ai de não sair desta tenda de pagar. Noutra casa e a minha porta nem se abre para fugir. Cansada de ouvir o vento pela fenda, o sol pela janela e a ti num pedaço de apenas. Mas sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Tenho medo. Mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Sabes, sabes, sabes, sabes.
Accent d'Europe à la réalisation, David Brockway. Retrouvez l'émission sur l'appli RFI Pure Radio, sur le site RFI.fr. À très bientôt.